Rudolf Steiner, Mythe et mystère égyptien. Huitième conférence faite à Leipzig le 10 septembre 1908. Nous venons de reconnaître d'importants processus d'évolution dans l'organisme humain. Nous avons suivi cet organisme dans sa formation jusqu'au moment où la Lune s'est séparée de la Terre. Moment n'est ici qu'une façon de parler. Ces processus se sont déroulés au cours de très longues périodes. Entre l'instant où la Lune esquissa sa séparation et celui où elle fut entièrement séparée, il s'écoula un temps considérable pendant lequel l'évolution a continué. Nous avons suivi l'évolution de l'homme jusqu'au départ de la Lune. Nous avons compris la forme de l'être humain, dont le corps, dans sa partie inférieure, jusqu'à hauteur des hanches environ, commençait à ressembler à peu près au corps humain actuel. En tout cas, cette partie inférieure du corps, bien que molle encore, aurait déjà été visible pour des yeux actuels, alors que la partie supérieure n'était visible que pour le regard clairvoyant. Nous avons déjà montré comment les légendes, la religion et l'art ont retenu, dans le centaure, un aspect de cette nature humaine d'autrefois. Certaines parties du corps humain se sont formées alors, qui sont devenues par la suite les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Elles représentaient autrefois des formes animales terrestres qui se sont figées en un certain stade de l'évolution que l'homme a dépassé. Voyons cela de plus près. Dans les temps très reculés, au moment du départ du Soleil, il n'existait pas encore de formes animales. Après le départ du Soleil, la forme animale la plus parfaite était représentée par une espèce qui se trouvait au même degré d'évolution que les poissons actuels. Pourquoi peut-on dire que les pieds de l'homme correspondent à cette forme de poisson et qu'il y a un rapport entre les pieds et les poissons? C'est qu'au moment où ces formes animales semblables aux poissons nageaient dans la masse terrestre liquide, seuls les pieds de l'homme étaient physiquement formés, visibles. Le reste n'était fait que d'une substance éthérique. Cette forme de calice ou de corolle, cet organe lumineux dont nous avons parlé, était tout éthérique, une forme éthérique éclairée, et seule la partie inférieure de l'homme prenait une consistance physique au sein de la masse liquide, comme les poissons qui, eux, en sont restés à ce stade de l'évolution. Par la suite, se formèrent des formes animales plus évoluées. Le souvenir en survit dans des images comme celle du Verseau, qui représente l'homme au moment où son corps était visible jusqu'au niveau du genou. À mesure que l'homme franchit les degrés de son évolution, il laisse derrière lui certaines formes animales qu'il dépasse à chaque étape de son existence. Et lorsque la Lune commença à se séparer de la Terre, la moitié inférieure du corps humain était déjà formée physiquement, tandis que la partie supérieure était encore très malléable. Nous avons vu ensuite comment entrent en jeu les influences lunaires, sous la forme que les Égyptiens ont personnifiée en Osiris, qui peut agir à travers les différentes phases de la Lune. Nous avons vu comment ces influences ont donné naissance à l'élément le plus important de la partie supérieure du corps, les nerfs, grâce auxquels s'est formée la moitié supérieure de notre corps actuel. Ce sont les nerfs de la moelle épinière qui ont formé la partie supérieure du corps humain. Sous l'influence des sons qu'Osiris Apollon tire de la lyre humaine, se forme d'abord la partie médiane du corps, les hanches. Tout ce qui a dû en rester là, à ce point de l'évolution au-delà duquel l'homme a progressé, s'est définitivement fixé dans la forme des amphibiens. Tant que la Lune est restée unie à la Terre, elle a eu plus ou moins pour effet de tirer vers le bas le développement de l'homme. La forme des poissons était encore en rapport avec le Soleil, et c'est à cela que sont dues les impressions qu'un homme sain éprouve aujourd'hui à la vue d'un poisson. Songez à la joie qu'on ressent à regarder le beau corps brillant des poissons, ces superbes animaux colorés qui peuplent l'eau. Et songez à l'antipathie que ressent l'homme à la vue d'animaux qui sont cependant plus évolués que des poissons, les amphibiens, tritons, grenouilles, crapauds ou les serpents, rampant et se tordant sur la terre. Certes, les amphibiens actuels sont des formes tout à fait dégénérées des animaux d'autrefois. Mais la partie inférieure du corps humain a vraiment eu, à un moment de l'évolution, des formes de ce genre. Tant que seule la partie inférieure du corps était formée, jusqu'à la hanche, l'homme ressemblait à une espèce de dragon. Plus tard seulement, depuis la partie supérieure de son corps qui avait pris forme plus ferme, il remodela la moitié inférieure. Nous pouvons dire que le poisson représente le stade où se trouvait l'homme quand il recevait les forces du soleil encore unies à la terre. Et ce stade persiste jusqu'au moment du départ du soleil. Les grands esprits, les guides de l'évolution, se séparèrent de la terre et édifièrent le soleil. Ils ne doivent se réunir à la terre que beaucoup plus tard. L'un d'entre eux, le plus haut des esprits solaires qui dirige l'évolution est le Christ. Un respect profond nous pénètre lorsque nous apprenons que, jusqu'à ce moment, l'homme était uni à cette entité, à cet esprit sublime, et quitta la terre avec le soleil. Les hommes ont eu le sentiment qu'ils pouvaient symboliser par la forme du poisson le moment où le soleil quitta la terre, et ensuite l'action formatrice du Christ lui-même. Autrefois, l'homme était uni au soleil sur la terre, et lorsque le soleil s'éloigna, la forme qu'il avait reçue des esprits du soleil lui apparut sous l'aspect du poisson. Il poursuivit son évolution, mais les esprits du soleil ne l'assistaient plus. Le Christ a quitté la terre au moment où l'homme avait la forme du poisson. C'est cette forme qu'ont conservée les initiés de la première période de l'ère chrétienne. Le poisson des catacombes romaines était le symbole du Christ et rappelait le grand événement de l'évolution, l'époque où le Christ était encore uni aux hommes sur la terre. L'homme avait atteint dans son développement le niveau du poisson lorsque le soleil se sépara de la terre. Pour les premiers chrétiens, le symbole du poisson, qui représentait la forme donnée aux hommes par le Christ, était plein d'un sens infiniment profond. Quel monde entre ce signe, qui nous apparaît comme le symbole d'une ère cosmique, et les explications superficielles que l'on en donne souvent. Les vrais symboles sont ceux qui reposent sur de hautes réalités spirituelles. Un vrai symbole est l'image de tel ou tel événement que l'on peut réellement contempler dans le monde spirituel, et on ne peut interpréter aucun symbole tant qu'on ne sait pas le rapporter à la réalité spirituelle qu'il représente. Toute spéculation philosophique peut tout au plus préparer l'esprit. L'expression cela signifie ne suffit pas. On ne reconnaît un symbole qu'en découvrant la réalité spirituelle qu'il recèle. Nous allons maintenant poursuivre l'étude de l'évolution de l'humanité. L'homme a revêtu progressivement les formes les plus diverses. La moins harmonieuse de ces formes physiques est celle qu'il avait au moment où il était condensé jusqu'aux hanches. C'est cette forme, mais dégénérée, que nous retrouvons dans le serpent. L'époque où l'homme prend la forme de l'amphibien, lorsque la lune était encore mêlée à la terre, est une époque de honte, de corruption dans le cours de l'évolution. Si à ce moment la Lune n'avait pas quitté la Terre, la race humaine aurait été condamnée à un destin effroyable. Elle serait descendue vers des formes de plus en plus horribles, mauvaises. C'est pourquoi le sentiment d'antipathie qu'éprouve toute âme simple, naturelle, en face d'un serpent, souvenir de cette époque où l'homme était au plus bas degré, est tout à fait justifié. Ce sont précisément les âmes simples, celles qui ne se disent pas qu'il ne saurait rien y avoir de laid dans la nature, qui éprouvent du dégoût à la vue d'un serpent, parce que le serpent est le vivant témoignage de la honte humaine. Nous ne parlons pas ici du point de vue de la moralité. Il s'agit simplement du niveau d'évolution le plus bas que l'homme ait atteint. Ce niveau, il devait le dépasser. Il ne le pouvait qu'en abandonnant la forme animale et en commençant à condenser peu à peu sa partie supérieure, spirituelle. Or, cette partie la plus noble ne pouvait se développer que grâce aux forces d'Osiris et d'Isis. Pour que les forces d'Osiris puissent agir sur elle et que cette partie la plus noble puisse se développer, quelque chose de très important devait d'abord se passer. Jusqu'à présent, la moelle épinière avait eu une position horizontale. Il s'agissait pour la partie supérieure de l'homme de trouver la force de la dresser à la verticale. Cela se produisit sous l'influence d'Isis et d'Osiris. Degré par degré, le soleil et la lune, se faisant réciproquement équilibre, conduisirent l'homme. Lorsqu'il eut pris forme physique jusqu'à la hauteur des hanches, le soleil et la lune se faisaient équilibre. C'est pourquoi les hanches sont désignées comme la balance. À ce moment-là, le soleil se trouvait dans le signe de la balance. Il ne faut cependant pas se figurer, répétons-le expressément, que les hanches se formèrent aussitôt que le soleil eut atteint le signe du scorpion, puis celui de la balance. Ce serait voir les choses de façon beaucoup trop hâtive. Le soleil parcourt le zodiaque tout entier en 25 920 années. À un certain moment, le soleil se levait au printemps dans le signe du bélier, auparavant dans celui du taureau. Le point vernal continua de se déplacer. Le soleil traversa avec le point vernal le signe du taureau, et ainsi de suite. Environ 747 années avant Jésus-Christ, il entra à nouveau dans le bélier. À notre époque, au printemps, le soleil se lève dans les poissons. Le temps que met le soleil à traverser un signe du zodiaque est certes déjà assez long, mais il n'aurait pas suffi pour que s'accomplisse la phase de l'évolution au cours de laquelle le corps humain passa de la sexualité sous le signe du scorpion au développement des hanches sous le signe de la balance. Il serait faux de croire que cela a pu se passer pendant le temps où le soleil traversa une fois un signe du zodiaque. Il parcourt d'abord le zodiaque entier avant que ne s'accomplisse la transformation. Dans des temps plus reculés encore, il en faisait plusieurs fois le tour avant que l'évolution n'ait avancé d'un pas. C'est pourquoi on ne peut se servir pour des époques antérieures des modes de calcul du temps de la période post-atlantéenne. Avant que l'évolution ait fait un pas, il fallait que le soleil ait fait le tour du zodiaque, plusieurs tours même, dans des temps encore plus reculés. En effet, certains membres devaient être modelés sur de plus longues périodes. L'homme poursuit son évolution ascendante. Le degré suivant, qu'il atteint, où se forment les parties inférieures du tronc, est représenté par le signe de la Vierge. Nous comprendrons au mieux l'évolution si nous n'oublions pas qu'à mesure que le corps humain prenait forme, les entités animales s'arrêtaient successivement au niveau que l'homme dépassait. Nous avons déjà vu que l'homme a pu former ses poumons, son cœur et son larynx grâce aux forces de la lune, et qu'Osiris et Isis ont participé à la formation de ses organes. Mais les organes supérieurs de l'homme, tels que le cœur, les poumons, le larynx, etc., ne purent se former que parce que les parties spirituelles de l'entité humaine, le corps éthérique, le corps astral et même le jeu, y étaient à l'œuvre d'une certaine manière. Ces éléments supérieurs travaillaient beaucoup plus que dans les périodes précédentes à l'édification du corps humain, depuis qu'était dépassé le niveau de la balance. De là, une extrême diversité de formes a pu surgir, selon que l'influence du corps éthérique ou du corps astral ou même du jeu était prépondérante. Il pouvait aussi arriver que ce soit le corps physique qui prédomine. De ces diverses possibilités, il résulta la formation de quatre types humains. Il y eut un certain groupe d'hommes dont le corps physique était particulièrement travaillé. D'autres tenaient leur caractère du corps éthérique. D'autres encore, c'était l'astral qui prédominait. Il y eut aussi des hommes dont le point fort était le jeu, chez lesquels l'influence du jeu, du moi, était nettement prépondérante. Chaque être humain portait la marque de l'élément qui prédominait en lui. À l'époque où se formèrent ces quatre types, on aurait pu voir des formes grotesques, et le clairvoyant qui les aperçoit sait découvrir ce qui constitue ces différents types. Il existe des représentations imagées de ces choses, peu connues certes, mais qui en ont fixé le souvenir. Chez ceux où la nature physique était prépondérante, où elle avait agi sur les parties supérieures du corps, celle-ci prenait une forme particulière. Cette forme, adaptée aux parties inférieures du corps, s'est conservée dans l'image apocalyptique du taureau. Le taureau actuel en est une forme décadente. Tout ce qui, à une certaine époque, a été formé sous l'influence particulièrement active du corps physique est resté au niveau du taureau. Le taureau et tous les animaux de son espèce, vaches et bovins, de tout genre, en sont les représentants. Le groupe humain chez lequel le corps éthérique, surtout les parties du tronc tournées vers le cœur, était particulièrement formé, s'est maintenu à ce stade dans le règne animal. Ce stade, que l'être humain dépassa, a été fixé dans le lion. Le lion est le souvenir du type humain chez lequel le corps éthérique a été très actif. La jante mobile des oiseaux représente, sous une forme certes dégénérée, le niveau humain où le corps astral a prédominé sur le corps éthérique et sur le corps physique. Il est représenté dans l'Apocalypse par l'aigle. L'astralité qui prédomine ici a été éliminée par l'homme. Elle s'éleva du sol sous forme d'oiseau. Et là où le jeu fut le plus fort, apparut un être qui réunit en lui les trois autres natures, car le jeu établit un harmonieux équilibre entre les trois autres éléments humains. Le clairvoyant perçoit pour ce groupe ce qui a été fixé dans le sphinx, au corps de lion, aux ailes d'aigle, manifestant également quelque chose du taureau. Dans les statues les plus anciennes du sphinx, on trouve même encore la queue de serpent, témoin de l'ancienne forme de reptile. Le devant du corps, enfin, représente la forme humaine, qui harmonise les trois autres. Tels sont les quatre types d'humanité parmi lesquels, à l'époque atlantéenne, le type homme prédomine, car peu à peu, la forme humaine s'élabore, unissant et harmonisant en elle l'aigle, le lion et le taureau. Ces trois tendances se mêlent pour donner naissance à la forme humaine parfaite, et celle-ci, se transformant peu à peu, devient ce qu'elle est au milieu de l'époque atlantéenne. Un autre processus se déroule parallèlement à cette évolution. Nous venons de voir que quatre tendances, quatre types de formes se sont harmonieusement combinées pour former l'homme. L'une est présente dans le corps physique, dans la nature taureau. Ce sont les forces qui se sont formées en particulier jusqu'à l'époque de la balance. Dans le corps éthérique, nous avons la nature lion. Dans les forces astrales dominantes, celle de l'aigle ou du vautour. Et enfin, nous avons les forces du jeu, la véritable nature humaine. En chaque individu dominait l'une ou l'autre de ces quatre tendances. C'est ainsi que prirent naissance quatre types différents d'êtres humains. Mais on pourrait rencontrer encore d'autres combinaisons. Il arrivait par exemple que le corps physique, le corps astral et le jeu aient une influence égale, et qu'ils dominent alors le corps éthérique. ce qui donna naissance à un type particulier d'humanité. Par contre, il y eut un autre groupe d'êtres chez lesquels le corps physique, moins nettement formé, fut dominé par les corps supérieurs, corps éthérique, corps astral et je. Les individus chez lesquels le corps physique, le corps astral et le je prédominèrent sont les ancêtres physiques des êtres masculins actuels. Tandis que ceux chez lesquels le corps éthérique, le corps astral et le je eurent une influence prépondérante sont les ancêtres physiques des femmes actuelles. Les autres types disparurent peu à peu. Seuls ces deux-là subsistèrent et donnèrent naissance aux formes masculines et féminines. Qu'est-ce donc qui a permis l'apparition progressive de ces deux formes précisément? Elles sont dues aux influences différentes des forces d'Isis et d'Osiris. Nous avons déjà vu que les phases de la nouvelle lune, de la lune obscure, correspondent au principe d'Isis, alors que l'éclat de la pleine lune caractérise les forces d'Osiris. Isis et Osiris sont des êtres spirituels qui résident sur la lune, mais leur œuvre s'accomplit sur la terre. C'est par eux que la race humaine a été divisée en deux sexes. Les ancêtres féminins de l'humanité ont été formés sous l'influence d'Osiris, les ancêtres masculins sous celle d'Isis. Ces influences sont transmises par les cordons nerveux grâce auxquels l'humanité a été séparée en hommes et en femmes. C'est ce qu'exprime la légende quand elle dit qu'Isis cherche Osiris. L'élément masculin et l'élément féminin se cherchent sur la terre. Nous voyons à nouveau que ces légendes recèlent des phases merveilleuses de l'évolution cosmique. La différenciation des sexes ne s'est progressivement imprimée dans les constituants supérieurs de la nature humaine que lorsque fut dépassé le degré de la balance. L'homme est resté androgyne beaucoup plus longtemps que les animaux. Les animaux étaient depuis longtemps bisexués au moment où l'homme le devint. Il y eut un temps où la race humaine n'était point divisée en sexes différents, où le mode de reproduction qui est apparu plus tard n'existait pas, où la nature humaine confondait les deux sexes en un seul être. Et Dieu créa l'être humain masculin-féminin, dit la Bible, et non il créa l'homme et la femme. Il créa les deux en un seul être, et c'est une très mauvaise traduction que celle qui dit, deux points, il créa un homme et une femme. Car cette traduction ne correspond en rien à la réalité. Il y eut donc un temps où la nature humaine ne connaissait pas la division des sexes, où chaque être humain enfantait sur un mode virginal. La tradition égyptienne nous transmet la vision que ces initiés ont eue de cet état de l'humanité. J'ai déjà parlé ailleurs des très anciennes représentations d'Isis. On y voit une Isis qui nourrit Horus, et derrière laquelle se trouve une seconde Isis aux ailes de vautour qui tend à Horus la croix en C. Ceci indique que l'homme est né en un temps où les différents types étaient encore séparés. L'autre entité astrale n'a pénétré que plus tard dans l'homme. Cette seconde Isis symbolise la prépondérance qu'avait autrefois l'élément astral. Les forces qui ont été réunies par la suite à la forme humaine sont représentées derrière la mer. Elles sont figurées par la forme astrale qui aurait eu des ailes de vautour si elle était restée purement astrale. Une troisième Isis, à tête de lion, qui se trouve tout à fait en arrière, représente le temps où le corps éthérique avait la prépondérance. Cette triple Isis nous est offerte à partir d'une vision profonde. De ce point de vue, nous comprendrons quelque chose d'autre. La séparation des sexes n'a pas pu se produire brusquement. Il a fallu une période de transition, un état intermédiaire entre ce mode de reproduction virginale, où la fécondation s'opérait sous l'influence des forces vivantes de la terre, jouant en même temps le rôle de principe fécondant, et la reproduction sexuée. Celles-ci n'atteignent son fonctionnement parfait qu'au milieu de l'époque atlantéenne. Au cours de la période de transition préalable, une transformation de la conscience humaine eut lieu à un certain moment. Les changements qui se produisaient alors dans l'état de conscience des hommes s'opéraient en des périodes beaucoup plus longues qu'à notre époque. À ce moment, l'homme avait une conscience très forte de la vie nocturne pendant laquelle il se ressentait comme un être spirituel parmi ses compagnons spirituels. Par contre, la conscience de jour était faible. Cette forme de conscience se modifia au cours d'une autre période, où se fortifia la conscience dont l'homme est doué quand il est dans son corps physique et où s'affaiblit la vie de l'âme quand, la nuit, il quitte le plan physique. En même temps, s'affaiblit la vie de l'âme quand il quittait la nuit le plan physique. Il y eut donc entre ces deux formes de conscience une période de transition où la conscience du monde physique était encore assourdie, et c'est dans cet état de conscience affaibli que se produisait la fécondation. C'est dans les périodes où l'homme, n'ayant plus qu'une conscience floue du monde physique, remontait vers le spirituel, que s'effectuait la fécondation, et l'homme n'en avait qu'une perception vague qui se traduisait par un acte symbolique vu en rêve. Le sentiment de la fécondation se manifestait pour lui en images nobles et délicates. Il n'avait en conscience qu'un rêve étrange, par exemple qu'il jetait une pierre, que cette pierre tombait dans la terre, et qu'alors une fleur naissait. Pour que notre étude de cette période de l'évolution soit complète, il nous faut encore parler des êtres qui avaient atteint déjà auparavant un degré plus avancé. Quand nous disons que certains êtres étaient restés au niveau du taureau, d'autres au niveau du lion, d'autres au niveau de l'aigle, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si ces êtres avaient pu attendre et n'avaient laissé s'épanouir en eux l'amour du monde physique que beaucoup plus tard, eux aussi seraient devenus des hommes. Si le lion n'avait pas voulu pénétrer trop tôt dans la sphère physique, il serait devenu un être humain, et comme lui, tous les autres animaux qui avaient pris forme jusque-là. Ou en d'autres termes, au moment où allait se former le lion, les êtres qui composaient l'humanité d'alors se divisèrent. Les uns se dirent « Non, je ne veux pas me revêtir encore des substances les plus inférieures. Je ne veux pas descendre dans l'humanité physique. Les autres, je veux descendre. Je veux que ce qui a été développé en moi prenne forme. » Imaginons deux êtres, l'un qui reste encore en haut, dans la sphère aérienne éthérée, ne touchant la terre que par certaines parties terrestres du corps, et l'autre qui tend à descendre entièrement sur la terre. Ce dernier devint peut-être un lion, l'autre un homme. De même que les animaux sont restés stationnaires à un moment de l'évolution, certains êtres humains restèrent également en arrière. Ce ne sont pas les meilleurs qui ont ainsi pris corps trop tôt. Les meilleurs sont ceux qui ont su attendre. Longtemps ils ont patienté avant de descendre sur la terre pour y accomplir consciemment l'acte de fécondation. Ils restèrent longtemps dans l'état de conscience où cet acte n'était pour eux qu'un rêve. Ces êtres humains vivaient, selon l'expression courante, au paradis. Ceux qui étaient déjà descendus tout entiers sur le plan physique étaient pourvus d'un corps particulièrement fort. Leur visage avait une expression rude, brutale, tandis que les autres, qui voulaient laisser aux parties les plus nobles de l'être humain le temps de se former, avaient une forme beaucoup plus humanisée. Nous rencontrons dans une légende étrange et dans un certain rite religieux le souvenir de ces événements. Tacite parle de ce rite. C'est la légende de la déesse Nertus, ou Herta, qui chaque année plonge avec son char au sein de la mer. Mais ceux qui tirent le char sont destinés à périr. Nertus est considéré en général comme le sont tous les personnages de ce genre, c'est-à-dire comme un produit de l'imagination, comme une déesse quelconque à laquelle on aurait consacré un culte sur une île quelconque. On a cru reconnaître le lieu consacré à Nertus dans le lac Erta, sur l'île de Rügen. On pense que c'est dans ce lac que plongeait le char de la déesse. C'est là une invention sans fondement. Le nom de Erta a été donné au lac récemment. Il s'appelait autrefois le lac Noir, à cause de sa coloration, et personne ne pensait à le nommer lac Erta, ni à l'associer à la déesse. Cette légende cache un sens beaucoup plus profond. Nertus représente l'époque de transition entre la fécondation virginale et le mode de reproduction actuel de l'humanité. Nertus, qui plonge dans un état de conscience nébuleux, perçoit l'acte de fécondation sous une forme éthérée, symbolique. Lorsqu'elle s'abîme dans la mer de la passion, elle n'en perçoit qu'un reflet. Mais les êtres, qui étaient déjà descendus sur la terre au moment où l'humanité plus parfaite ne connaissait encore que cette perception voilée, avaient déjà perdu la pureté originelle. Ils voyaient déjà cet acte physiquement. Étant perdus pour la conscience supérieure de l'humanité, ils méritaient la mort. Le souvenir de cet événement ancien a été conservé dans les rites religieux de nombreuses régions d'Europe. À certaines époques, on commémorait cet événement par une cérémonie. On plongeait dans la mer des passions le char de Nertus. La cérémonie était même accompagnée de l'usage horrible qui consistait à tuer les serviteurs qui devaient tirer le char et qui pouvaient voir. C'étaient des esclaves et on les tuait. Ils représentaient l'humanité mortelle qui avait vu l'acte physiquement. Seuls les prêtres initiés pouvaient assister sans danger à la cérémonie. Cet exemple nous montre qu'on avait gardé dans certaines régions la connaissance de ces faits et que, dans ces régions-là, vivait le culte de Nertus. Une conscience particulière donnait forme à la légende et au rite. Ainsi l'humanité poursuivit-elle son évolution à travers les formes de conscience les plus diverses. Symboles et légendes sont une représentation de faits réels. Nous avons déjà vu que ces images ne doivent pas être considérées comme des allégories, mais que leur contenu correspond à des faits réels. Ces images apparaissaient autrefois sous forme de rêves. Avant que le disciple ne voie réellement l'évolution de l'humanité, il rêvait d'abord la légende d'Osiris. Et seul ce qui prépare à la vision spirituelle, réelle, peut être un symbole au sens occulte du mot. Un symbole décrit en tableau des réalités. Nous verrons dans la prochaine conférence quels ont été les effets produits par ces descriptions.